Vous écoutez RTL.
Il est 18h41, l'heure du deuxième invité de RTL Soir, Vincent Parisot.
Et je vous le disais, cet invité, c'est une légende, Cérone. Bonjour, bonsoir Marc Cérone.
Bonsoir.
Tout d'abord, et avant de parler de cette autobiographie que vous publiez, Paradise aux éditions EPA, eh bien on va se faire plaisir, on va sortir la boule à facettes, les chemises pelle à tarte et se mettre dans l'ambiance. Voilà, trois tubes de Marc Cérone, Give Me Love, Supernature à l'instant, Love in C Minor. Que ce soit avec ces tubes des années 76-79, ou plus récemment d'ailleurs avec des concerts événements, vous avez fait danser des millions de clubbeurs, danseurs à travers le monde. Vous êtes un véritable mythe, vous publiez donc cette autobiographie. Pourquoi vous avez ressenti le besoin de vous raconter alors que vous continuez à avoir du succès dans les festivals ou dans les salles?
Déjà parce qu'on m'a motivé pour le faire et qu'ensuite on s'est tous dit que on peut montrer, surtout aux jeunes aujourd'hui qui se plaignent d'être dans des banlieues immigrées et autres, c'est de là d'où je viens.
Ouais.
Et que quand on a une passion, et vraiment la vie est belle, et le paradis c'est aujourd'hui, et c'est pas dans un autre temps. Et alors c'est des mots, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Et j'ai expliqué par plein d'anecdotes qui me sont arrivées. Je crois que l'opportunisme, quand on est un artiste, faut savoir le reconnaître. Faut savoir. Moi, j'ai toujours travaillé un petit peu comme je le dis souvent. Il y avait deux personnes en moi. Il y avait une personne ambitieuse, un peu mégalo, parce que j'aime bien les grosses choses et pourquoi se limiter. Et l'autre côté de moi qui à chaque fois est un peu peur, quoi, parce qu'il faut être à la hauteur. Mais ça m'a quand même permis de tout faire, de travailler beaucoup pour être à la hauteur, comme je dis.
Tout faire, d'ailleurs, souvent tout seul. Vous racontez ce parcours de fils de cordonnier d'origine italienne. J'allais dire envolé de la maison, devenu vendeur de disques à Paris et dans plusieurs magasins. Et puis vous racontez surtout ces années folles, 75-79, où le batteur, le musicien passionné que vous êtes avec le groupe Congas devient ensuite prince de la nuit new-yorkaise, star du disco, et aujourd'hui donc un mythe avec une vie à cheval entre les États-Unis et la France. Et justement, vous évoquez dans ce livre ce malentendu qui a toujours existé, dites-vous, entre vous et la France.
C'est pas un malentendu. Non. Enfin, moi, j'ai pas vu. Comme ça, j'ai vécu comme une non-connaissance.
Ouais.
Pour vous donner un exemple, par exemple, quand j'ai reçu 5 awards aux États-Unis, 8 jours après, je venais en France faire un peu de promotion, parce que je vivais là-bas, et des gens du métier m'ont dit « Alors, Cérone, vous faites plus de musique ?» J'ai dit « Donc, ça passe pas. »
Ouais. Et en même temps, il y avait quand même une image.
C'était une banlieue. Vous savez, quand vous vivez aux États-Unis, que vous êtes pris dans un tourbillon de succès, et ça dure. Moi, je prenais ça à pleine main, parce que je pensais vraiment pas que ça allait durer. Je pensais vraiment que ça allait durer quelques mois. Donc je profitais. En fin de compte, ça a duré des années, des décades. Et jusqu'à dernièrement, il y a 4 ans, quand ma maison de disques, Because, me dit « Marc, tu devrais maintenant prendre les platines ». J'ai éclaté de rire en disant « ça va pas ».
Et en fait, ça fait un carton avec des DJ sets.
Et en fin de compte, je fais des festivals à travers le monde que j'aurais pas pu faire autrement. Donc c'est constamment.
Mais en même temps, il y a cette image que vous avez renvoyée aux Français à travers les pochettes de disques, à travers les clips, la chaîne en or, le pantalon moulant, les filles faciles, voire
À l'époque, on était comme ça. À l'époque, on avait les manteaux de fourrure, la chemise ouverte avec la chaîne, comme les rappeurs aujourd'hui l'ont fait. Faut remettre ça dans le contexte.
C'est vrai si on compare vos clips à ceux de clips de rap aujourd'hui,
ne rigolons pas.
C'est ça.
Mais disons que j'ai pas vraiment beaucoup travaillé le territoire français. Je m'en moquais un petit peu. J'avais rien qui me motivait. Donc je venais faire des passages et j'étais tout à fait servi. Par contre, ce que je peux dire, c'est que tous les concerts que j'ai fait en France, malgré peu de promos ou comme d'autres artistes, j'ai eu la chance, j'ai toujours eu des concerts pleins jusqu'à il y a une dizaine d'années devant les
Versailles,
100 000 personnes. j'ai pas eu des spots sur TF1 ou d'autres chaînes pour le faire, donc le bouche à oreille m'a toujours suivi. C'est aussi pour ça que je me suis pas trouvé le besoin de me justifier quand j'avais des pantalons bizarres ou...
Je vous cite, c'est la dernière phrase du livre.
Ostentatoire.
Oui, c'est vrai, ils étaient assez ostentatoires, vos pantalons, et assez moulants. C'est la dernière phrase du livre.
Là, il me fait rougir.
La
moi,
chance...
qui n'ai rien à montrer,
non,
en plus.
Non, la chance, on la saisit plus facilement quand on la guette. C'est comme ça que vous terminez votre
tout
livre.
Tout à fait.
Et c'est vrai que la chance, vous en avez eu au moins une fois, un coup de bol magistral qui va sans doute décider de votre vie et peut-être même un petit peu de la face musicale du monde avec la déferlante disco. Vous êtes déjà vraiment dans la
perdu,
musique.
Voilà.
Vous êtes vraiment dans la musique à ce moment-là avec un groupe Congas. Vous avez des magasins de disques import et puis un jour, une caisse de votre disque. Tout le monde a refusé en France que vous avez fait presser vous-même. Cette caisse, elle part par erreur aux États-Unis.
Elle part par erreur aux États-Unis. Le grossiste ouvre le carton, voit que ce n'est pas des Barry White qui l'attendaient. Et en fin de compte, un DJ qui travaillait certainement chez le grossiste dit « Tiens, je vais le passer ce week-end dans le club. » Il s'avère que le public va voir la cabine en demandant « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ?» Du coup, le type les vend à la cabine, les 300. Ils ne reviennent jamais. Que à une radio, un gros animateur star de l'époque qui s'appelait Frankie Crocker fait des annonces à l'antenne en disant « Est-ce que quelqu'un connaît ce Céron ?» Ils me cherchaient tous à Londres, puisque le seul endroit où on avait accepté de me faire presser des disques, c'était à Londres. Et en fin de compte, ils décident, une maison de disques, Casablanca, qui était le producteur de la Summer, décide de fabriquer un cover, c'est-à-dire c'est une copie. Et la copie arrive dans les top 10, dans les 10 premiers des parades, je ne sais pas. On me le dit, mais je n'y crois pas. Et trois mois après, en fin de compte, c'est la vérité. Donc je pars à New York, je m'explique chez Atlantique, la grosse maison de disques, que c'est moi et que ça existe. Et bon, il faut prouver tout ça. Mmh. Ça a été fait et ça m'a créé un buzz absolument incroyable.
Et là, vous devenez le prince de la nuit new-yorkaise, des nightclubs, notamment le célébrissime Studio 54.
Où j'ai beaucoup joué.
Vous racontez vos soirées avec Andy Warhol, Grace Jones, Jean-Paul Good, évidemment, même Basquiat. On a du mal aujourd'hui à vous imaginer dans cet environnement.
Mais parce qu'on avait un peu le même âge et qu'on était chacun dans sa discipline, un peu des provoques et des gens qui avaient du succès, ouais. que les médias comprenaient pas trop, ouais. mais que le public suivait. Et ils existent encore ces gens-là, par Warhol et Bakhtiar, et c'était un petit peu logique. Et c'est stimulant quand on est entouré de gens comme ça et qu'on discute. Alors on n'était pas amis, on se fréquentait pas, mais on se voyait, vous savez, dans les carrés VIP, dans les clubs, et on passait les nuits à discuter, et s'exciter. Et à chaque fois, moi, Supernature, ça a été très motivant. C'est parce que je savais que mes copains allaient trouver ça génial, parce que ma maison de disques voulait absolument pas. C'était trop différent, c'était trop ouf. C'était trop fou. Ouais.
Et jusqu'à ce que finalement plusieurs générations dansent sur ce disco pour lequel vous étiez à l'origine, ce que vous appelez le vrai disco. Après, c'est devenu autre chose.
Le vrai disco, c'est une musique de danse, pareil, ouais. Sauf qu'elle est beaucoup plus un peu comme une mise en scène musicale. Moins de textes, c'est moins de la chanson pop. Et quand les maisons de disques du monde entier ont vu passer le train sans être dedans, elles ont pris leurs artistes locaux. En France, vous avez eu Dalida, Claude François, plein d'autres, Sheila.
Et on leur a dit, vous allez faire
ils ont fait des tubes, ça aurait de toute façon été des tubes, mais c'était des chansons pop. Mmh. Et ça, c'est pas de la disco, ce que les DJ n'ont pas manqué de reconnaître dans les années 90-2000. Mmh. Et c'est un peu, même beaucoup grâce à eux, que je suis encore là aujourd'hui.
Tout le reste de l'histoire et des choses parfois très surprenantes sont à lire dans Paradise, l'autobiographie de Céron aux éditions EPA. Merci Céron.
Merci
Marc
Céron,
hein, et pas Jean-Marc, hein, j'ai noté que...
Jean-Marc était un pseudo, mon vrai prénom est Marc.
Merci beaucoup
Merci à vous.
D'être venu sur RTL.